inviter à tourner dans la parole de Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, si vous êtes en visite ici et peut-être que vous n'avez pas apporté une Bible avec vous, simplement levez la main, gardez la main bien haute. Un placeur va se faire un plaisir de vous apporter une Bible tournée dans Matthieu 19. Et mon épouse va nous faire la lecture à partir du verset 13. Matthieu 19, 13. Une personne ici à l'arrière qui me renvoie une Bible. Merci. Matthieu 19, 13, et je vous demande de porter une grande attention à la lecture de la parole de Dieu.
Alors, on lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Et voici, un jeune homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. » Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Aussi, allez aussi à ma vigne, » leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur? » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers.
Merci, chérie. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je te bénis pour cette assemblée qui est réunie pour chanter tes louanges. En grand nombre, Seigneur, pour écouter le message de ta parole. Seigneur, je te bénis pour le temps que j'ai pu passer cette semaine penché sur ce passage. Ce passage fantastique qui nous parle de gloire à venir et de merveilles insondables qui attendent ceux qui te suivront, Jésus. Père, sans l'intervention de ton esprit, nos cœurs ne recevront rien. Sans l'intervention de ton esprit, nous repartirons tristes comme ce jeune homme. Mais il est possible pour toi, Père, d'éveiller nos cœurs ce matin, afin que nous recevions le message de ta parole. Viens nous bénir. Je te demande, Seigneur, d'être avec moi. Avec ce que je vais dire. Seigneur, que je n'aille pas au-delà de ta parole et que ta grâce soit évidente, afin, Seigneur, que ton évangile soit prêché avec vérité. Enfin, Père, j'aimerais te prier pour ceux d'entre nous qui sont absents, ceux qui sont retenus à la maison par la maladie actuellement, ceux qui sont retenus parce qu'ils sont en train de prendre soin d'un proche, ceux qui peut-être sont retenus parce qu'ils ont été entraînés, loin de toi. Viens, Seigneur, étends ta main. Va les rejoindre ce matin. Et envoie-nous cette semaine pour aller encourager, ramener, supporter un frère, une sœur qui a été absent ou qui s'est éloigné. Viens bénir cette Église, Seigneur, dans tes voies. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Je vous remercie pour votre patience. Vous voyez qu'on est un petit peu en retard sur l'horaire habituel, mais les annonces avec le début des cours bibliques, on a jugé pertinent de prendre le temps de le faire. Ça se peut qu'on termine, on va terminer un peu après moins quart, je peux vous le dire. S'il ne fallait qu'une fois d'enfant pour hériter d'un royaume, si seulement avoir la foi d'un enfant était nécessaire pour hériter de tout un royaume. Est-ce que vous en seriez capable? Jésus dit au verset 14 que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à un enfant. Est-ce que vous avez déjà fait une promesse à un enfant? Vous savez que les enfants sont capables de croire. Vous savez ça? Vous avez déjà fait des promesses à des petits-enfants? L'an dernier, je pense que je l'ai déjà mentionné à l'Assemblée, mais l'an passé, nous avons fait un voyage à Walt Disney avec la famille en Floride. Il y avait une opportunité fantastique qui s'était présentée, puis on a sauté sur l'occasion. On a fait le voyage avec la famille. Maintenant, ça a été incroyable pour des enfants, je vous avoue, pour les adultes aussi. Mais c'est vraiment comme un monde fantastique. Quelques mois après le voyage, alors qu'on était revenu à la maison, notre garçon de 9 ans, Bastien, bien, il nous a demandé quand est-ce qu'on retournait à Walt Disney. Ben, Bas, on va y aller lorsque tu vas payer le voyage. La prochaine fois, c'est lorsque tu le payes. Ah, papa, ça coûte cher, Bastien, un voyage comme ça. Et on lui a expliqué à quel point c'est rare de faire des voyages comme ça, et puis ça s'organise, et il y a des sous qui sont derrière ça. Mais vous savez quoi? On a eu beau lui expliquer, Bastien a beau commencer à grandir, puis à prendre des proportions. Hein. Souvent, le paramètre chez nous, la mesure, c'est combien a coûté l'auto. Puis tout est comparé à ça. Oui, c'est ça, c'est le prix d'une petite voiture. OK. Alors, on a beau lui expliquer tout ça, vous savez quoi? Il suffirait qu'Esther et moi rassemblions les enfants à l'heure du souper et puis qu'on leur dise, les enfants, l'an prochain, on retourne à Walt Disney. Puis Bastien nous croirait dur comme fer. Il n'y aurait aucune difficulté à nous croire. Ce serait une certitude pour lui. Même si on lui a expliqué que ça coûte cher, même si on lui a expliqué que c'est rare que tu fais un voyage de ce genre-là dans ta vie, même si on a essayé de lui donner des proportions, il suffirait qu'on leur dise, les enfants, l'an prochain, on s'en retourne à Walt Disney. Puis ils nous croiraient dur comme fer. Aucun problème. Et plus les mois avanceraient, plus l'attente arriverait dans leur cœur. Bastien viendrait nous parler, puis là, il nous dirait, « Oh, papa, papa, il faut absolument qu'on aille faire ce manège-là, puis il y a les glissades d'eau. » Au fur et à mesure que les mois avanceraient, que l'été prochain arriverait, Bastien vivrait dans l'expectative de ce moment-là. L'impatience viendrait, il commencerait à rêver de ça. Mieux encore, si nous disions à nos enfants, « Écoutez, cette année, cette fois-ci, on va le faire un petit peu différemment. » Papa et maman, on a pensé qu'on vous mettrait à contribution. Alors voici ce qu'on a pensé. On a pensé que cette année, tout l'argent qu'on aurait mis dans des cadeaux à Noël, aux fêtes, tout ça, on va prendre tout l'argent de la famille puis on va mettre ça de côté pour faire le voyage à Walt Disney. Est-ce que vous pensez que les enfants seraient d'accord? Pas de problème, je peux vous l'assurer. L'attente de ce qui est promis ferait que ce petit sacrifice qu'ils auraient à faire pendant cette année, juste pour pouvoir faire ce voyage fantastique, ce ne serait même pas un problème. Ça deviendrait même excitant de traverser ces fêtes-là en disant un pas de plus vers notre voyage à Walt Disney. Ça, c'est la foi d'un enfant. C'est ça la foi d'un enfant. Il suffirait qu'on dise ça aux enfants. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le jeune homme riche dans l'histoire qui suit tout de suite après dans le passage, le jeune homme riche dont nous parlions voilà deux semaines, n'a pas eu la foi d'un enfant pour croire en Jésus. Le jeune homme riche n'a pas eu cette foi d'enfant pour recevoir cette promesse que Jésus lui faisait. Pourtant, Jésus lui offrait tellement plus que tout ce qu'il aurait eu à abandonner. Si tu laisses aller ce que tu possèdes et me suis, tu auras un trésor au ciel incomparable. C'est ça que Jésus lui promet. Mais ce jeune homme, qui était un bon gars, vous vous en rappellerez, était aussi très riche. Et devant ce que lui demandait Jésus pour le suivre, il a été incapable de croire ce que Jésus promettait. Voyez-vous, ce jeune homme avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de richesses, mais il n'était pas libre. Beaucoup de richesses, pas libre. Toutes ses possessions qui étaient censées lui donner la liberté, c'est pas à ça que ça sert les richesses? On accumule des richesses parce qu'on est convaincu que ça va nous donner la liberté. Vous vous rappelez, ceux qui sont un petit peu plus vieux, liberté 55? Avec les nouveaux riches, liberté 45? Avec l'éducation qui monte au Québec, liberté 35, pourquoi pas? Nous travaillons et nous accumulons en pensant que tout ceci nous donnera la liberté. Soyons francs, c'est pour ça qu'on le fait. Bien, ce jeune homme avait beaucoup de richesses, il possédait beaucoup de biens, il aurait dû être très libre, non? Extrêmement libre. Pourtant, il n'était pas libre. Il n'était pas libre, pourrait-on dire, parce que ses possessions le possédaient. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ce jeune homme riche n'était pas libre parce qu'il ne possédait pas des biens. Il était possédé par ses biens. Je ne vais pas tellement loin quand je dis ça. Le dieu de la richesse, à cette époque-là, s'appelait Mammon. Et ce jeune homme ne possédait pas ses biens, il était possédé par ses biens. Ses biens n'étaient pas à son service, ils étaient ses maîtres. Et à cause de cela, ce jeune homme, possédé par ses richesses, n'a pas eu la foi d'un enfant pour croire Jésus et tout laisser pour le suivre. Maintenant, on l'a vu, voilà deux semaines, Jésus ne demande pas à tous ceux qui veulent le suivre d'abandonner toutes leurs richesses. J'avais donné l'exemple avec Zachée, il me semble que c'est assez frappant, c'est assez clair. Zachée a donné la moitié de ses biens, c'est ça qu'il a fait au moment où il a cru. Et Jésus ne lui a pas demandé d'en donner davantage. Au contraire, il a dit, le salut vient d'entrer dans cette maison. Mais Jésus demande une chose, par contre. S'il n'a pas demandé à Zachée de donner tous ses biens, comme il demande à ce jeune homme riche de le faire, c'est parce que Jésus demande une chose à tous ceux qui veulent le suivre. Il demande ce que son Père céleste demande. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur sans partage. Tu n'aimeras rien et tu ne feras rien passer avant Dieu ou avant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et comme je l'avais fait remarquer aussi il y a deux semaines, Jésus n'était pas intéressé à ses richesses. Ne soyez pas cynique si vous voyez ce passage puis vous dites, bon, encore, il parle d'argent. Soyez pas cynique. Qu'est-ce que Jésus lui dit de faire avec ses richesses? Les donner à son organisation? Regarde, mes disciples sont là, tu passes au comptoir après. Prends toutes tes richesses, donne-les aux pauvres. Tout ce que Jésus voulait, c'est qu'il se déleste de ce fardeau qui l'empêchait de le suivre. Tout simplement. Alors, quand le jeune homme riche s'en va, le cœur triste, Jésus fait simplement un constat, il fait une observation, c'est tout. En voyant ce jeune homme qu'il trouvait sympathique, l'Évangile de Marc nous dit que Jésus a aimé ce jeune homme. Jésus dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ce serait plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, parce que celui qui a des richesses préférera ses richesses à Dieu. C'est très difficile, nous dit Jésus, pour un riche d'avoir la foi d'un enfant et de croire les promesses de Jésus. En fait, c'est scientifiquement impossible. Tout comme il est impossible de faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. Mais heureusement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que tout est possible à Dieu. Dieu peut transformer le cœur d'un riche qui est possédé par ses possessions et lui donner la foi d'un enfant, un cœur d'enfant, qui va le libérer de cette possession, qui l'empêche de suivre Jésus entièrement. Dieu peut le faire. En termes bibliques, ce dont Jésus parle ici lorsqu'il dit qu'il est impossible à l'homme, mais que tout est possible à Dieu, en termes bibliques, on appelle ça la régénération. Ailleurs, Paul parle de ces choses et nous aide à comprendre ces choses, entre autres avec l'apôtre Paul, mais Pierre aussi. Jésus appelle ça ailleurs la nouvelle naissance, cette transformation du cœur, cette foi d'enfant qui vient prendre place dans le cœur. Dieu peut l'accomplir. Dieu peut le faire. Dans l'Ancien Testament, dans le temps de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, bien avant la venue de Jésus, les prophètes avaient annoncé qu'un jour viendrait où Dieu donnerait un cœur nouveau à ses enfants. Le prophète Ézéchiel, annonçant la venue du Messie et ce miracle qui allait se produire, dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est Dieu qui parle à travers son prophète. Et si vous remarquez, dans le passage, Dieu dit que c'est lui qui va le faire. Jésus est en train de répéter cela. Cette intervention où, à un certain moment donné, dans la vie d'un individu, il y a un revirement complet dans les priorités de sa vie. Cette chirurgie cardiaque, seul Dieu peut la faire. C'est une intervention divine. C'est une intervention divine et seul Dieu peut opérer cette transformation profonde du cœur. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et remarquez la question des disciples. Les disciples réagissent ici devant le commentaire de Jésus et ils disent « Qui donc peut être sauvé? » Parce que, rappelez-vous que Jésus a aimé ce jeune homme. Je vous l'ai dit dans Marc, on a ce commentaire sur le regard que Jésus a posé sur lui. Jésus l'a aimé. C'était tout de même un fichu de bon gars, ce jeune homme riche. L'évangile de Luc, qui nous parle aussi de cette rencontre avec Jésus, nous dit même que c'était un chef religieux. Alors, lorsque ce jeune juif dit à Jésus qu'il observe les commandements de l'Ancien Testament depuis sa jeunesse, il ne parle pas à travers son chapeau. Peut-être à travers sa barbe, mais pas à travers son chapeau. Il savait ce qu'il disait. C'était vraiment un homme qui était dévot, qui était pieux, qui était craignant Dieu, qui étudiait la loi de Dieu pour essayer de la comprendre et l'observer. Alors les disciples se disent, si ce gars-là ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, s'il repart comme ça le cœur triste, qui peut être sauvé? Et vous savez que les Juifs croyaient à cette époque-là quelque chose que vous croyez aussi, vous ne l'admettrez pas, mais vous le croyez. Un riche, c'est quelqu'un qui est béni par Dieu. C'est un signe de la bénédiction de Dieu. Et je sais, tout le monde ici dirait non, moi je ne crois pas ça. Pourtant, si Dieu permet que votre travail disparaisse, vous vous demandez si Dieu est en train de vous mettre sous une malédiction. Et lorsque vous avez une augmentation de salaire, vous voyez ça comme la bénédiction de Dieu. Ce l'est. Mais lui était riche. Il était un béni de Dieu. Ils avaient cette conception à ce moment-là qui reste. C'est fort, c'est en nous cette idée-là. Un bon gars qui craint Dieu, qui veut marcher avec Dieu, qui est un chef religieux dans sa jeunesse, donc qui a consacré sa jeunesse à étudier la parole, béni de Dieu, béni dans ses finances. Si lui ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? Qui pourra être sauvé? Et Jésus leur dit, aucun homme ne peut se sauver de lui-même. Personne. Pas juste ce jeune homme riche, mais aucun ici ne peut se sauver de lui-même. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu peut faire cela. Si vous n'avez pas encore choisi de suivre Jésus-Christ, si vous n'avez pas pris cette décision-là, parce que jusqu'à présent, dans votre vie, vous avez choisi de suivre quelqu'un ou quelque chose d'autre que Jésus-Christ. C'est le temps aujourd'hui d'abandonner, de laisser les choses aller pour suivre Jésus-Christ. Dieu peut vous donner un cœur nouveau, une foi d'enfant pour le suivre. Venez avec lui avec simplicité. Simplement dans la prière, dire au Seigneur, « Seigneur Jésus, donne-moi la foi d'un enfant. Donne-moi un cœur nouveau pour que je te suive, afin que tu deviennes pour moi, Seigneur, ce qu'il y a de plus précieux sur la terre. Donne-moi ce cœur qui va me permettre de te suivre coûte que coûte, quel que soit le prix à payer, Seigneur. Je veux te suivre. » Jésus a dit ailleurs dans les Évangiles, « Cherchez, vous trouverez. Il n'y a rien qui touche le cœur de Dieu autant qu'une personne qui le cherche. » Est-ce que vous croyez cela? Dieu aime qu'on crie à lui, qu'on se tourne vers lui. Dieu peut vous donner cette foi d'enfant qui manquait à ce jeune homme. Vous n'êtes pas obligé de repartir ici, vous engager dans votre semaine avec le cœur triste parce que vous essayez de combler votre vie avec autre chose que la personne de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas obligé de repartir d'ici avec le cœur triste. Mais vous pouvez partir d'ici avec le cœur rempli de Jésus-Christ. Dieu peut le faire. Et je pense que c'est vrai non seulement pour quelqu'un qui n'a pas encore pris une décision pour suivre Jésus-Christ, mais je pense que c'est vrai aussi pour ceux qui ont donné leur vie à Christ depuis un bout de temps. Et si c'est le cas, vous êtes familier avec le passage que je vais vous lire, Éphésiens 4, 21. Voici ce que Paul dit dans Éphésiens 4, et vous allez voir, il y a ce renouvellement qui est encore présent. « C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Si c'est vrai que nous passons par la nouvelle naissance une seule fois dans notre vie, si c'est vrai que nous passons par cette expérience de la conversion, de la régénération du cœur une seule fois dans notre vie, c'est aussi vrai de dire que nous sommes progressivement transformés de jour en jour à l'image de Christ pour voir ce renouvellement de notre intelligence, cette transformation de notre pensée, notre manière de voir la vie, notre manière de faire des choix, les passions qui nous animent, ce qui nous amène à nous lever chaque matin et être excités pour la journée. C'est ça aussi le renouvellement de l'intelligence, revêtir cet homme nouveau. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Il y a la conversion, mais il y a ensuite la sanctification. Cette transformation progressive est opérée par Dieu et c'est mon expérience à moi personnellement. Ça fait quelques années maintenant que je marche avec le Seigneur. Je sais que j'ai de l'air jeune, mais ça fait une vingtaine d'années que je vis mes hauts et mes bas avec Christ. Et c'est mon expérience personnelle qu'il est bon chaque matin d'aller humblement dans la prière, humblement, simplement dire, Seigneur, renouvelle en moi, Seigneur, un esprit bien disposé pour avoir envie aujourd'hui de rechercher ta sainteté dans ma vie, pour prendre plaisir non seulement à ce qui est bon, mais à ce qui est parfait à tes yeux, Seigneur. Le psalmiste a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et par moments, lorsque je sens que je traverse une période où mon cœur s'est refroidi, je suis moins excité par les choses de Dieu, je suis moins excité par la vie de l'Église, je suis moins porté à être passionné pour la mission que Christ nous a confiée. J'entre dans une période de prière dans ce temps-là. J'ai déjà partagé dans la dernière année à l'Assemblée, il m'est arrivé de traverser un désert de 2-3 ans. Où chaque fois que tu as l'impression que tu remontes la côte puis que tu commences à être rempli de l'Esprit de Dieu, ça dure 2 jours, 3 jours, 1 semaine et tu recommences à gémir aux pieds du Seigneur. Mais chaque fois que j'ai traversé des périodes où mon cœur se refroidissait à l'égard de Dieu, d'autres passions venaient prendre la première place dans mon cœur. J'ai appris à entrer dans une période de prière, voire même de jeûne, où je cherchais la face de Dieu quotidiennement et je demandais, « Seigneur, redonne-moi cette foi d'enfant. Qu'il n'y ait aucun partage dans mon cœur, Seigneur. Toi seul, Jésus-Christ, comme passion de ma vie, afin que je cesse d'avoir le cœur triste, du cœur partagé comme ce jeune homme riche. » Dieu peut le faire. Tout lui est possible. Demandez-lui. Ayez le courage de lui demander. Ayez le courage d'accrocher un frère, une sœur ce matin et de dire, il faut que je cherche la face de Dieu dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, mais je ne laisserai pas partir Dieu comme Jacob tant qu'il ne m'aura pas béni. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin, mon frère, que tu m'accompagnes dans la prière. J'ai besoin qu'on se réunisse ensemble. J'ai besoin de crier à Dieu parce que je me sens comme cette église de Laodicée qui s'était refroidie à l'égard de Dieu et j'ai besoin qu'il me touche de sa grâce. Viens accrocher un ancien, un de ses frères qui était ici à l'avant. Allez voir Sylvie, demander aux femmes de prier pour vous, les sœurs. Faites-le. Dieu va le faire. Dieu veut qu'on le cherche. Dieu veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Maintenant, tu dois savoir, et c'est clair dans ce passage, c'est très clair dans ce passage. Si tu oses adresser cette requête, si tu ne fais pas comme le jeune homme riche, qui a juste quitté avec le cœur triste, tu dois savoir que Christ va te demander d'abandonner des choses. Si tu fais cette prière-là, il va y avoir un dépouillement. Si tu fais cette prière-là, c'est que quelque chose d'autre est venu prendre la place de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu fais cette prière, Jésus va te demander d'abandonner des choses. Certaines littéralement. D'autres simplement dans ton cœur, d'être prêt à les quitter, à les laisser tomber. Il va te demander de passer par ce dépouillement. Dieu t'avertit dans sa parole ce matin. C'est le prix à payer pour suivre Jésus-Christ et entrer dans la joie de marcher à la suite de Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu veux entrer dans cette joie? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus-Christ, à dire, « Seigneur Jésus, j'abandonne tout ce qui nuit à ce que je te suive. Je veux te suivre, toi, avant tout autre. » Et si tu as ce désir-là dans ton cœur ce matin, réjouis-toi, c'est l'Esprit de Dieu qui te saisit. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui saisit ton cœur si tu as ce désir-là. Si enfin tu dis, « Seigneur, je suis prêt, là. Je suis enfin prêt, je sais, ça fait des mois, ça fait des années, Seigneur, mais je suis prêt à le faire. » C'est l'Esprit de Christ qui te saisit. Réjouis-toi, viens nous le dire, on va prier pour toi, on va se réjouir avec toi. Parce que tu ne peux pas faire ça par toi-même. Lorsque ça se produit, c'est Dieu qui te saisit, c'est Dieu qui vient le faire. Et regardez les disciples de Jésus, c'est Jésus qui les a choisis, ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Mais ils ont cru en Jésus, ils ont eu cette foi d'enfant, pas très mature encore, hein? On va le voir très, très bientôt, il y a encore des guéguerres pour savoir lequel va être le premier. Ah, ça manque de maturité, c'est pas important. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus, ils ont eu cette foi toute simple pour suivre Jésus-Christ et lui faire confiance parce qu'ils ont cru qu'il était le Christ, qu'il était le Messie, qu'il était le Sauveur des hommes. Et ils ont décidé de le suivre. Ils ont eu cette foi d'enfant. Et de la même manière qu'un tout petit enfant peut des fois être assez direct dans ses demandes, bien c'est ça que Pierre fait ensuite dans le passage lorsqu'on arrive au verset 27. Dans un sens, c'est ça que Pierre est en train de dire. Il dit, « OK, Seigneur, ce que tu as demandé à ce jeune homme riche là, qui repart le cœur triste, nous, on l'a fait. Nous, on a tout laissé, Seigneur. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour nous? » C'est ça qu'ils font, comme un enfant. Comme des enfants qui sont excités. Et en gros, ce que Jésus leur répond, c'est relativement simple. Hein? Jésus leur dit, écoutez les boys, vous n'êtes même pas en mesure d'imaginer ce qui vous attend de l'autre côté. Ça dépasse votre capacité d'imagination de concevoir ce que vous allez recevoir de l'autre côté. Ce que vous avez abandonné ici, c'est incomparable avec ce qui vous attend de l'autre bord. En gros, c'est ça que Jésus dit ici. C'est relativement simple. Et je comprends très bien que ça demande la foi d'un enfant pour l'accepter. On veut voir pour croire. Nous sommes comme ça. Nous voulons voir, on veut toucher. Quand j'ai vu le fœtus de mon enfant bouger derrière l'écran lorsqu'on a fait l'échographie, ah là, c'était vrai! N'est-ce pas? On est comme ça, on veut voir. Alors, je comprends, ça demande la foi d'un enfant pour vraiment saisir ces choses et les croire. Et à celui qui n'a pas la foi, tout ceci peut sembler tellement absurde, inconcret, abstrait. Mais à celui qui a la foi, c'est possible de croire. Voyez-vous, Jésus est le Fils de Dieu, il sait de quoi il parle. Lorsqu'il annonce ça aux disciples, il n'est pas en train de parler à travers son chapeau. Lorsqu'on préparait le voyage pour aller à Walt Disney, je parlais de Walt Disney à mes enfants. C'est mon troisième voyage à Walt Disney. La première fois, j'avais à peu près l'âge de mes enfants. D'ailleurs, ça a été un des éléments qui nous a décidé de le faire là. J'avais à peu près leur âge. La première fois que j'étais allé, il y avait Walt Disney World, ou un des parcs thématiques, puis Epcot Center. Il y avait deux parcs thématiques. Et je gardais des souvenirs incroyables de ce voyage-là. Je savais l'impact que ça avait sur des yeux d'enfants. Et je leur parlais de ça et je leur disais combien c'était fantastique. Mais je savais de quoi je parlais. Je n'étais pas en train de leur faire des accroires. J'étais allé là-bas. La première fois, j'étais allé avec un regard d'enfant. Je savais combien c'est incroyable. C'est un peu la même chose avec Jésus, voyez-vous. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans l'Évangile de Jean, Jean l'appelle le Logos. Au début de l'Évangile de Jean, Jean fait une introduction et avant même de nous raconter la naissance et tout ça, il nous parle de ce Fils de Dieu qui existait avant. Il appelle le Logos, la parole de Dieu. Dieu, au commencement, créa comment? Par sa parole. Jean nous dit, Jésus, le Fils de Dieu, était avec Dieu le Père au commencement. Il était avec Dieu et il était Dieu. Avant que le Fils de Dieu ne naisse comme un petit enfant à Bethléem, qui s'appellerait Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu était dans la gloire du Père. Quand Jésus leur dit, les boys, vous ne savez même pas ce qui vous attend de l'autre bord. Il sait de quoi il parle. Il n'est pas en train de parler à travers son chapeau. Il ne parle pas de ce qu'on lui a raconté. Il a quitté la gloire du Père et il sait qu'une fois de l'autre côté, on va oublier tout le reste. Pour tous ceux qui l'auront suivi, Jésus ne parle pas à travers son chapeau. Il a vu, il a connu, il a vécu tout ce qu'il y a de merveilleux dans la présence de Dieu. Alors Jésus sait de quoi il parle lorsqu'il dit « Tout ce que vous aurez abandonné pour me suivre, vous recevrez au centuple. » C'est ça qu'il est en train de dire. Oubliez ça, les boys, vous n'êtes même pas capables de le concevoir au centuple. Pensez à tout ce qu'il y a de réconfortant, d'agréable, de merveilleux qui vous apparaît extraordinaire et que vous pourriez avoir à abandonner ici pour me suivre. Et de l'autre côté, ça ne sera absolument rien en comparaison. Je le sais, je l'ai vu, je viens de là et je me prépare à retourner dans la gloire de mon Père. Jésus savait de quoi il parlait. Ça prend la foi d'un enfant pour le croire. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour suivre Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu pourrais avoir à abandonner pour suivre Jésus? À laisser de côté à cause du nom de Jésus? Soyons concrets un peu, vous le voulez? Est-ce que ça pourrait être ton copain non chrétien? Il n'y a pas un parent qui est venu me porter un petit mot cette semaine pour que je plugue quelque chose. Mais tu fréquentes un non chrétien et tu sais pertinemment que Dieu te demande de te marier avec un enfant de Dieu, avec un chrétien. Est-ce que ça se pourrait que Jésus soit en train de te demander de le laisser pour suivre Jésus-Christ? Et tu dis, tu ne comprends pas, Seigneur, on fait tellement bien ensemble, Seigneur. On est tellement bien ensemble. Et Jésus te demande de le laisser pour le suivre. Est-ce que tu es prêt à avoir cette foi d'enfant pour saisir la promesse de Jésus que tout ce que tu vas laisser, tu recevras au centuple? Et à être satisfaite ou satisfait seulement de Jésus-Christ. Et remarquez bien que Jésus n'a pas promis ici au jeune homme riche de lui redonner des richesses ici-bas. Le contrat est très, très clair. Laisse tes richesses et au ciel, un trésor incroyable t'attend. Jésus ne te promet pas si tu laisses ton copain non chrétien de te donner quelqu'un qui va fitter parfaitement avec toi. J'en ai pas de promesse pour toi là-dessus. Je peux te dire que c'est un bon père, tu peux lui adresser ses requêtes, mais c'est pas ça le plus important ici. Jésus ne promet pas que tu vas trouver le fit parfait avec un chrétien. Jésus-Christ veut être le fit parfait pour toi. Le reste, c'est du gravy. Mais Christ est suffisant. Est-ce que ce sont tes grandes ambitions de carrière que tu pourrais devoir abandonner pour suivre Jésus-Christ? Vous savez, c'est correct que les chrétiens excellent dans leur carrière. C'est même très bien. Mais jamais les chrétiens ne pourront le faire comme le monde le fait. C'est impossible. Il va toujours y avoir un moment où tu devras faire un choix parce que les gens qui sont sans Jésus-Christ poursuivent des choses qui sont inutiles à nos yeux. Qui sont pure vanité à nos yeux. Quand tu réalises l'importance de suivre Jésus-Christ et que nous ne sommes que des pèlerins sur terre, est-ce que tu vas devoir abandonner certaines ambitions au niveau de ta carrière pour suivre Jésus-Christ? Est-ce que ce serait des amitiés qui sont pour toi constamment une occasion de chute? C'est pas toi qui les influence pour venir à Christ, c'est eux qui t'influencent et chaque fois tu dois te repentir de ce que tu as fait avec eux. Est-ce que c'est le confort de ta petite vie privée? Tu vis en ermite avec ta petite famille, ta petite vie confortable, centrée sur toi et sur ta famille, et Jésus te demande de céder davantage de ton agenda, davantage de ton temps pour le suivre. Soyons plus concrets, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ta TV, ton Xbox, ta bouteille de vin, ton bench press, tes vacances dans le sud? Vous comprenez, toutes ces choses n'ont rien de mal en soi. Aucune d'entre elles. Mais est-ce que ça se peut qu'elles t'empêchent, toi, de suivre Jésus-Christ? Est-ce que ça se peut qu'elles soient dans le chemin et que suivre Jésus-Christ te demande de les abandonner? Tu peux repartir d'ici ce matin avec le cœur triste comme le jeune homme riche qui n'a pas voulu lâcher son joujou, ses richesses. Ou tu peux repartir d'ici ce matin avec le cœur rempli de joie en disant, Jésus, tu seras toute ma joie et tu me combleras parfaitement. Jésus dit dans le verset qui suit, au verset 30, il dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Mais regardez bien, vous avez d'une part un jeune homme riche qui était un premier, c'était un winner, une star montante, c'était une vedette dans sa ville. Littéralement, il était riche, comme je l'ai dit tantôt, ça voulait dire à l'époque « béni de Dieu ». Tout le monde autour le regardait et disait « il a réussi ce gars-là ». Il était un homme de principe, c'était un homme droit. Il était respecté dans sa ville, qui plus est dans sa jeunesse. Luc nous apprend que c'était un chef religieux. Donc c'était un jeune homme très respecté dans sa ville, avec une belle réputation, un avenir doré devant lui, mais il n'était pas prêt à suivre Jésus si Jésus lui demandait de laisser ses richesses. Vous avez donc de ce côté un premier, un gagnant, et de l'autre côté, vous avez cette gang qui est en train de suivre Jésus, des hommes de rien. Les disciples de Jésus étaient des gens de peu d'instruction pour la majorité. Un d'eux, Matthieu, l'auteur de cet évangile, un collecteur de taxes. J'ai rien contre les collecteurs d'impôts, mais à l'époque, ça voulait dire, comme je l'ai expliqué il y a deux semaines, des voleurs. C'était ça, littéralement. C'était des hommes qui vivaient de métiers humbles, ils vivaient de la pêche. Des petits métiers, rien pour flasher en ville. Ces gars-là ne se promenaient pas dans des voitures de l'année, à part peut-être le publicain, mais c'était avec de l'argent volé. Alors d'un côté, vous avez un winner, un gagnant, socialement accompli. Et de l'autre côté, vous avez ces gars-là qui ne sont pas des gagnants. Ils étaient plus des derniers que des premiers dans tous les sens du terme. Et Jésus leur dit, regardez bien ce qu'il leur dit au verset 28. Il leur dit, « Vous, mes amis, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » C'est un passage qui est difficile à comprendre lorsqu'on essaie d'aller dans le détail. Et je ne pourrais pas le faire ce matin. Ça serait le sujet d'une autre prédication ou d'un cours biblique le dimanche matin. Mais dans le contexte ici, des premiers seront les derniers, des derniers seront les premiers. On voit très bien ici que les disciples de Jésus, qui étaient des derniers aux yeux de la société, les gens en général ne les voyaient pas comme des gagnants. Jésus leur dit, vous serez les premiers. Les disciples de Jésus n'étaient pas des princes d'Israël, des docteurs de la loi, des grands chefs religieux très instruits ou des riches. Et Jésus leur dit qu'ils seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël au jour du retour de Jésus-Christ. Socialement, en apparence, devant les hommes, ils n'étaient pas des premiers, mais simplement parce qu'ils ont eu cette simplicité de la foi d'un enfant, parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Jésus et de le suivre, ils se retrouveront vraiment les premiers. C'est ça la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus veut illustrer par la parabole qui suit après. Avec Dieu, cela ne va pas au mérite, au standing. Ce n'est pas une question de savoir si tu es grand ici-bas devant les hommes. Dans la parabole que Jésus raconte, à la fin du passage, la parabole qui suit tout de suite après, le maître ne paie pas ses ouvriers au mérite. Au contraire, à vue humaine, c'est pratiquement injuste ce qu'il fait, non? Ceux qui ont été le mieux payés en termes de taux horaire, ce ne sont pas les premiers, ce sont les derniers. Mais le maître ici décide de faire grâce, de payer richement ceux qui étaient les derniers, simplement parce qu'ils lui ont fait confiance et ils l'ont suivi. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait que tu as un grand standing, des richesses, un statut social intéressant, que les gens te regardent en disant « Wow, c'est une réussite, ce gars-là. Cette fille-là a réussi, elle a de l'avenir. » Tout ceci ne sert absolument à rien dans le royaume des cieux. Complètement inutile. Tu peux très bien ne pas avoir de réputation, être très humble dans ta condition de vie, une personne toute simple, et être bien en avant dans le royaume de Dieu. En fait, tout ce qui compte, c'est d'avoir la foi d'un enfant. Et lorsque Jésus te demande de le suivre, d'être prêt à tout laisser pour le suivre. Ça demande la foi d'un enfant pour croire les promesses incroyables que Jésus donne ici. Ça demande la foi d'un enfant, d'un petit enfant, pour rentrer dans le royaume des cieux. Et être prêt à laisser tout ce que Jésus nous demandera de laisser, sachant qu'il pourvoira. Sachant que tout ce qu'on aura laissé est incomparablement plus petit que tout ce que nous gagnerons avec lui. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus-Christ? Il va y avoir un dépouillement. Et il va continuer dans les années à venir, je peux vous le dire, ça ne s'est pas terminé lorsque j'ai dit oui à Jésus. Le dépouillement continue. Chaque fois que Christ me révèle des idoles dans ma vie et dans mon cœur, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus-Christ pour un jour entrer dans la joie de ton Maître? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, c'est impossible aux hommes de changer un cœur. Ce cœur d'enfant qui nous pousse à des gestes qui semblent complètement fous aux yeux de ceux qui n'ont pas la foi. Certains partiront en mission au Chili, d'autres iront implanter des églises à Rivière-du-Loup, d'autres donneront de leur temps pour servir, d'autres sacrifieront de leur vie privée pour accueillir un frère ou une sœur qui est dans la difficulté, d'autres encore consacreront une partie de leur bien, Seigneur. Mais cet abandon, cette foi pour te suivre, Jésus, c'est toi qui la donnes. Et Seigneur, ce matin, après nous être penchés sur ta parole, et moi, Seigneur, après avoir prêché si fort ta parole, je viens, Seigneur, déposer cette assemblée et mon propre cœur à tes pieds, reconnaissant humblement, comme tu le montres dans cette parabole, que c'est seulement par ta grâce, Seigneur. Et si nos cœurs sont aujourd'hui consacrés à toi, c'est parce que tu nous as choisis, c'est parce que tu nous as appelés. Viens, Seigneur, saisis-nous. Amène-nous à une consécration entière. Sauve, Seigneur, sauve ceux qui viennent ici le cœur triste et lourd, sans Jésus-Christ, qu'ils repartent d'ici dimanche après dimanche, libérés, et rempli de Jésus-Christ. C'est dans le précieux et beau nom de Jésus que nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever.